Il était une fois une étudiante en communication appliquée qui a parfois l'impression de venir d'une autre planète, même si elle est réellement originaire de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. En cherchant sa place dans le monde, elle fait certains choix, en apparence à contre-courant. Toutes ces manières de donner du sens à nos vies, ça la fascine, tant chez elle que chez les autres. Elle aura la chance d'y plonger encore plus en profondeur.
Salut, c'est moi, Amy. À l'automne 2020, j'ai quitté ma terre natale, le bas du fleuve, pour débarquer à l'Université de Sherbrooke. Mon parcours au baccalauréat tire tranquillement à sa fin. Pour en profiter le plus possible, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Ce balado est donc tombé à point. J'avais pas d'expérience dans ce domaine, et encore plus, j'avais jamais été la tête d'affiche d'un si grand projet. Malgré les vertiges, j'y ai sauté à pieds joints. Et ça en a valu la peine. Vous écoutez Les histoires qu'on se raconte, un balado de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Mes racines, elles baignent dans le Saint-Laurent. Le bruit des vagues et l'horizon envahi par le soleil couchant me procurent encore une plénitude et un apaisement inégalé. Quand, au sommet de la côte Saint-Pierre, l'horizon s'ouvre devant moi et me dévoile ma ville, enveloppée par le fleuve, je sais que je rentre chez moi. Vous connaissez peut-être cet attachement à un lieu spécial, cette impression de rentrer à la maison. Mais peut-être pas. Si, moi, je me sens choyée d'appartenir à ce paysage, si j'en suis fière, je me doute bien que c'est pas le cas de tout le monde partout. Alors je me suis demandé, quelles sont les histoires qu'on se raconte sur nos enracinements? J'ai grandi le nez dans la fraîcheur d'un vent aux effluves d'algues et de sel. Avec une enfance bercée par le fleuve, commencer par le Saint-Laurent lui-même me semble logique. Yannick Huot, professeur au département de géomatique appliquée, étudie l'eau, au début celle de la mer, parce qu'il est océanographe de formation. Mais petit à petit, il s'est aussi intéressé à celle des eaux intérieures, souvent moins salées, qu'on appelle alors eau douce. Mon idée de départ était d'obtenir un bilan de santé de l'eau au Canada. Mais j'ai découvert que Yannick et moi, on a des racines en commun.
J'ai grandi sur le bord du Saint-Laurent. Donc, mes parents avaient une terre qui partait du Saint-Laurent, qui se rendait à la maison. Donc, j'ai passé, bonne partie de mon enfance et de mon adolescence là, à parcourir ces champs-là et à descendre jusqu'au fleuve, évidemment. Puis, j'allais souvent pêcher des écrevisses le long du fleuve. Et donc, le fleuve, pour moi, quand j'étais jeune, peu importe où je me déplaçais alentour de Québec, j'avais toujours comme la position du fleuve dans ma tête. C'était mon repère géographique. Donc, si j'étais au nord du fleuve, je savais que j'étais au nord, je savais que le fleuve était dans cette direction-là. Donc, je pouvais m'orienter super facilement dans cette région. Quand j'ai quitté Québec, j'avais plus ce repère-là. Le fleuve a disparu de mon esprit. Quand je regarde ce que je faisais quand j'étais jeune, il y a comme trois choses que j'aimais vraiment faire. Je joue au soccer, mais je suis pas devenu professionnel. Faire pousser des plantes, l'agriculture, je m'intéressais beaucoup à ça. Et justement, jouer dans l'eau, essayer de trouver ce qu'il y avait dans l'eau. Et il y avait le Saint-Laurent derrière la terre de mes parents, mais il y avait aussi un petit trou d'eau. Et ce petit trou d'eau-là, je suis allé bloquer un petit peu de drainage dans le champ, puis j'ai fait une petite digue, puis le petit trou d'eau est devenu un assez grand étang. Je l'appelais mon lac. Puis, bon, j'ai pris des détours, mais je suis comme revenu à l'eau. Puis j'ai encore beaucoup de plantes à la maison.
Yannick et moi, on partage donc un attachement particulier à l'eau, même si lui l'a poussé encore plus, jusqu'à en faire le sujet de ses recherches. Bien sûr que le fleuve a servi de fondation à notre développement, ça a nourri notre lien à l'eau. Cette idée, Kiev Renaud la nomme « les lieux premiers ». Professeur au département des arts, langues et littérature, Kiev travaille, entre autres, sur la voie de l'enfance en littérature, au point de l'intégrer à ses propres œuvres. Elle m'a parlé de lieu premier quand j'ai voulu savoir ce qu'un regard enfantin apporte à la création.
Naturellement, je puise dans l'enfance, pas nécessairement la mienne, mais dans dans un regard enfant pour écrire, parce que j'ai l'impression que c'est un réservoir d'impressions premières. Et il me semble que c'est mon souvenir de l'enfance, c'est ça, c'est de ne pas tout à fait comprendre quelque chose. C'est la première fois que j'ai été confrontée à un mot, par exemple, qui a particulièrement frappé mon esprit, à une réalité que je ne comprenais pas tout à fait. Puis bref, toute cette série de premiers deuils aussi. Et j'ai l'impression que c'est un réservoir de sensibilité, de possibilité, de quelque chose d'extrêmement riche qui ensuite se déplie, je dirais même peut-être se dilue dans l'âge adulte. On finit par un peu s'habituer et par revivre des expériences qui la première fois nous apparaissent très fortes. Là, pour parler, pour toucher le plus près de l'expérience humaine, l'enfance m'apparaît un matériel, une ressource inépuisable. Et j'ai l'impression aussi que tous ces lieux-là de l'enfance apparaissent presque comme des lieux premiers, des lieux qui forgent les premières impressions et qui en ça se chargent de sens. Par exemple, le parc se détache d'une réalité géographique propre pour devenir un peu la définition même du parc. Et en ça, je trouve que ça s'approche beaucoup de la réalité de l'enfance pour qui il y a un parc, une maison, une école, le trajet entre... Finalement, c'est un monde assez clos, un univers assez fermé où il y a peu d'espace, mais chacun est sursignifiant. Puis dans le rapport donc au lieu de l'enfance, ce qui est le plus riche, c'est cette idée d'impression première, puis de territoire finalement qui est d'abord assez restreint, puis qui peu à peu s'élargit, se développe, mais que peut-être qu'on revient toujours à notre monde premier de référence pour comprendre ce territoire-là qui s'élargit.
La parfaite illustration de cet élargissement du monde à partir de nos lieux premiers, je l'ai eue en écoutant un groupe du cours Géo252, Espace, Culture et Société, enseigné par Vincent Grimard au département de géomatique appliquée. Ce cours regroupe surtout des étudiantes et étudiants au baccalauréat en enseignement au secondaire, profil univers social, mais il est ouvert à tout le monde. Il donne l'occasion d'explorer des notions de géographie humaine. En d'autres mots, d'approfondir comment les êtres humains influencent l'espace qui les entoure et vice-versa. C'était donc particulièrement intéressant de les entendre me parler de leurs enracinements.
Moi, je viens de la ville de Salaberry de Valleyfield. En fait, je suis plus natif d'une petite ville qui est juste à côté, qui s'appelle Saint-Timothée, mais avec la fusion, finalement, ça fait partie de Valleyfield. Puis on dirait que c'est vraiment avec Saint-Timothée que j'ai développé plus un lien parce que j'ai vécu toute mon enfance là. D'après moi, c'est plus des liens de nostalgie ou de souvenirs qu'on crée avec l'endroit. Fait que tu sais, je me rappelle justement, t'as comme l'église au milieu d'à peu près tout, puis après ça, tu te repères avec les rues, les écoles, le manoir Grant aussi. Quand j'allais faire du vélo, mettons, avec mes amis, je sais quel chemin j'empruntais. Fait qu'on dirait que j'ai comme une carte mentale de cette place-là. Puis arrivé à Sherbrooke, je me sens pas aussi dépaysé que je le serais si j'avais été à Coudjouac. Mais j'ai pas ce sentiment d'appartenance-là avec la ville, même si je trouve ça magnifique avec les montagnes, tout ça. Je viens d'un endroit très plat. Donc avoir des montagnes, on dirait que ça change tout un paysage.
J'ai fait quelques places au Québec, mais en majorité, ma famille provient de la Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, Cablard, Bonaventure. Et j'ai été élevée la majeure partie de ma vie à Kakuna, Rivière-du-Loup. Puis à chaque fois que je retourne, j'ai encore le sentiment de fierté, puis aussi les souvenirs du fleuve. Là. J'adore Sherbrooke, ça fait 5 ans que j'habite, mais c'est imbattable. Snack bar d'amour, là, sur la pointe, tu t'en vas te chercher une petite crème molle, c'est pas battable. Là. Tu peux pas avoir ça à Sherbrooke.
Je pense que mon sentiment d'appartenance envers le Saguenay-Lac-Saint-Jean est arrivé plus tard, en fait, pour moi. Je viens de Jonquière au Saguenay. Puis Jonquière au Saguenay, c'est... mettons que c'est pas la ville qui est la mieux vue. Puis j'ai jamais senti vraiment tellement que ça une appartenance envers le territoire, en fait. Je suis allée au Collège d'Alma, en fait, qui est au Lac-Saint-Jean, étudiant en musique. Je me suis fait un copain, il venait de Normandin, dans le haut du Lac-Saint-Jean. Puis là, j'ai plus visité le tour du Lac-Saint-Jean, puis je suis tombée en amour fou avec le Lac-Saint-Jean. À un moment donné, à Noël, on redescendait au Lac-Saint-Jean, puis à un certain moment donné, tu montes la grosse côte, puis t'as une vue sur le Lac-Saint-Jean. Écoute, j'en parle, puis j'en pleure quasiment. Tellement que j'ai un attachement envers le territoire.
À ce moment-là, un frisson me parcourt de haut en bas. Ce qu'elle décrit, c'est tout ce que je ressens, moi, en haut de la côte Saint-Pierre. Partager un sentiment aussi intime avec une parfaite inconnue, c'est à la fois étrange et réjouissant. À quel point nos émotions et nos expériences d'enracinement se ressemblent-elles? Comment la littérature permet-elle d'en parler, d'explorer ces territoires communs?
Ça m'a impressionnée, moi, à la parution de mon dernier roman qui s'appelle « Pratique d'incendie ». Moi, je pensais parler vraiment de la réalité des enfants de mon époque, là, de ma génération, qui ont grandi des années 90-2000. Ça me semblait très ancré dans cette réalité-là. Mais en fait, je me souviens d'une dame de 95 ans qui m'a dit qu'elle avait vécu son enfance, elle avait complètement retrouvé. Et c'est là que j'ai eu l'intuition de me dire, en fait, je pense que l'école n'a pas beaucoup changé. Puis quand on parle de réalité d'école, qu'en enlevant les références qui sont très propres à mon époque, je peux toucher quelque chose de la sensibilité de l'enfant qui est partagé par plusieurs générations. En fait, et j'ai l'impression que ce regard-là se définit beaucoup par l'idée d'un regard un peu neuf sur le monde qui l'entoure. Puis ces lieux-là, en fait, ça peut être des lieux très, très banals, mais qui sont par le regard de l'enfant, complètement magnifiés, puis qui peuvent devenir des lieux presque mythiques dans cet imaginaire-là. J'ai écrit dans mon premier livre, « Je n'ai jamais embrassé l'or », que les enfants sont comme des négatifs en attente d'être développés. La moindre tâche s'agrandit, donc une fois qu'elle se développe, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, que des petites impressions qui peuvent nous marquer à l'enfance, on les garde longtemps. Tina Mère de Portanqueue dans La Mélanchier de Jacques Ferron, pour qui le derrière chez elle, c'est le bon côté des choses, alors que devant, c'est le mauvais côté des choses, c'est la rue, c'est le monde ordinaire, la vraie vie, alors que derrière sa maison, c'est le jardin, l'espace de rêve, en fait, que son père a construit pour elle. C'est son jardin qui est probablement une cour bien ordinaire, mais c'est un monde merveilleux qui s'ouvre à elle et qui s'ouvre à nous aussi. En fait, si on regarde froidement le livre et qu'on essaie juste de comprendre les lieux de référence, les lieux ne sont pas aussi magnifiques qu'ils nous sont décrits. Et c'est tout le drame de ce roman-là, que quand Tina Mère grandit, en fait, le monde autour d'elle se ternit.
Avez-vous remarqué? Les lieux premiers de nos enfances nord-américaines sont plutôt fixes. Mais comment s'exprime l'enracinement qui rime avec le mouvement, quand nos lieux premiers changent tout le temps? Adib Ben-Shérif, professeur de politique appliquée, s'intéresse principalement à la situation des nomades dans le Sahel et le Sahara, donc en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Adib a été patient et pédagogue, avec moi et mes a priori.
Le nomadisme est maintenant très populaire. Initialement, notamment en Afrique, cela vient avec des contraintes. C'est un rapport à l'espace, effectivement. C'est une personne qui a une grande mobilité. Mais dans le cas de l'Afrique, c'est souvent associé à l'élevage. Donc, c'est des personnes qui doivent se déplacer en fonction des saisons pour trouver du pâturage pour leurs troupeaux, des moutons, des bovins, par exemple. Donc là, déjà, on voit que ce n'est pas une totale liberté. Dans notre appréhension en Occident, dans notre modernité, on visualise le nomade comme un être extraordinairement émancipé qui voyage un peu partout et qui n'a pas d'attache. Déjà là, il y a une petite nuance à avoir. Quand on y pense, les digital nomades, c'est-à-dire les travailleurs occidentaux, souvent, qui vivent à l'étranger, souvent dans des pays assez chauds, agréables à vivre, ont aussi des contraintes. Je dirais que la principale différence est une échelle dans les niveaux de contraintes. À savoir qu'il y a toujours le fondamental, le mouvement, mais c'est un mouvement beaucoup plus serré en Afrique, autour de points d'eau, par exemple, des points stratégiques permettant la survie du groupe. En Occident, on est plus dans un schéma plus ouvert, à savoir c'est quand même un privilège que de pouvoir décider de passer quelques années à voyager un peu partout dans le monde, avec un travail sur un ordinateur, et puis ensuite d'être à la plage. Donc les Touaregs, c'est un groupe d'origine berbère. On a tendance à dire « ils nomadisent » et puis s'arrêter là dans la présentation. On imagine l'homme bleu du désert, enturbanné, à dos de chameau, s'arrêtant sous sa tente, se reposer en mangeant des dattes et en sirotant du thé. Donc là, c'est vraiment la carte postale. Le problème, c'est qu'on n'a pas parmi les Touaregs que des nomades. Certains semi-nomadisent autour de points d'eau. Donc, ils peuvent bouger, mais être quand même un peu sédentaires. Avoir, par exemple, certaines choses attachées à un espace, une école, ou des éléments de la sorte. Certains s'urbanisent aussi. Ceux qui s'urbanisent même s'ils sont sédentaires, vont parfois dire « mais moi, je suis de culture nomade », parce qu'ils veulent référer à une appartenance culturelle, à un espace, à une manière de vivre. Et donc, ça fait partie de leur identité quelque part, malgré le fait qu'ils sont complètement sédentaires. Il y a aussi le rapport à la relation de pouvoir. Donc, les espaces, ce n'est pas un grand désert, et puis finalement, il n'y a aucune organisation politique avant la structuration en État. Avant même la structuration en État ou l'arrivée des colonisateurs en Afrique, il y avait des confédérations, des groupements politiques nomades, qui pouvaient être rivaux ou alliés. Donc déjà, il y a une représentation par rapport à des pôles de pouvoir dans tout cet espace. Ce n'est pas un espace ouvert complet.
J'enchaîne, petite surprise et étonnement léger. La vie nomade est beaucoup moins libre que je l'imaginais. Mais elle implique une culture assez distinctive pour que des gens qui ne nomadisent plus y attachent une partie de leur identité. Ce sentiment d'appartenance, ces enracinements, je les comprends toujours pas très bien. Comment se construisent-ils chez les peuples nomades?
Il y a cette notion absolument fascinante de l'essouf. L'essouf s'oppose à l'éhan. L'éhan, en résumé, c'est la tente, littéralement l'habitat. En opposition, on a l'essouf. L'essouf, c'est le vide, tout ce qui est à l'extérieur. C'est dans un jeu relationnel avec ce qui se passe à l'intérieur, la tente. Et la différenciation de cet espace, la division, est vraiment faite pour qu'on pense l'essouf comme un espace essentiellement masculin, donc c'est genré dans la représentation, et l'intérieur est pensé comme associé à des attributs féminins. Donc il y a vraiment une cosmogonie touareg dans cette représentation, et on voit qu'il y a eu un glissement sémantique. L'essouf voulait dire le danger, la peur, le vide, la solitude, et maintenant de plus en plus, au cours des dernières décennies, on voit que cela veut dire la nostalgie, l'attache, un rapport sentimental à un grand espace qui reste dangereux, mais qui est l'espace des nomades. En fait, moi, le glissement sémantique porté par les souffles et ce romantisme par rapport à la nostalgie du vide, ça devient le manque. Ma prof de Tamashek en langue touareg m'avait dit ça. Elle m'avait dit, lorsque l'on veut exprimer la nostalgie, que quelqu'un nous manque, on dit... littéralement, en langue tamashek, j'ai la brousse de toi. Ce qui est très intriguant, parce que quand les Touaregs vont essayer d'exprimer leurs sentiments et qu'ils n'ont pas l'habitude, par exemple, de la langue française, certains peuvent glisser et dire une expression très colorée de la sorte, mais qui révèle une réalité spatiale, c'est-à-dire vraiment la sentimentalité attachée à l'espace et à la personne. Le rapport aux liens familiaux, il est effectivement plus important, je dirais, puisque forcément, lorsque l'on va partir pour s'occuper du troupeau et puis s'éloigner du campement, éventuellement, on y va avec ses cousins ou ses parents. Encore une fois, il y a une logique de masculinité. Souvent, c'est plus associé à une activité faite par des hommes, loin du campement, si on va sur le mode strictement traditionnel. Mais après, il y a justement ce qu'on a laissé au campement, les petits frères, la maman... l'épouse. Donc, il y a cette fracture qui va déjà exister et qui va amener à une forme de solitude et une envie de revenir. Néanmoins, tout comme en Occident, on a WhatsApp. Ils utilisent très fréquemment ça pour rester en contact avec leurs proches et ça fonctionne à peu près dans toute la région. Donc, il n'y a jamais de déconnexion, c'est-à-dire on sait ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qui est toujours intéressant avec les communautés nomades, après le « Allô, bonjour, comment vas-tu » quand on me parle en français et autres, « Où est-ce que tu es ?» On me demande tout le temps où est-ce que je suis, parce que c'est une donnée importante pour un nomade de pouvoir situer la personne, si on doit l'aider, si elle est proche d'un autre campement, s'il doit informer quelqu'un, etc., etc. Il y a une volonté de dire que l'on appartient à une communauté. Je pense que ça, c'est très important pour eux. L'idée de pouvoir, quand ils se rentrent dans leur terroir où ils sont peut-être nés, où ils ont de la famille, qui sont nés dans ces villages ou dans ces campements nomades, de dire « je rentre chez moi ». Et je pense que c'est un sentiment que l'on peut retrouver même chez des sédentaires, c'est le rapport à l'oasis initiale, en quelque sorte.
Elle est là, la côte Saint-Pierre des peuples nomades, dans cet esprit de retrouvailles avec le lieu de leur histoire, personnelle comme familiale. Et en filigrane des réponses d'Adib, se dessine un fil caché aussi dans la trame des autres interventions. Aux racines de l'enfance correspond souvent un déracinement, une perte, que j'associe à l'adolescence, à tort ou à raison.
Je viens du lac Saint-Jean, dans une petite ville au lac Saint-Jean qui s'appelle Dolbeau-Mistassini. Ma perception de mes racines ont beaucoup changé. J'ai déménagé quand j'étais au secondaire. J'étais en secondaire 2, en plein milieu de l'année. Je suis arrivée en Abitibi. Fait que c'est un gros, gros changement pour moi. Je suis devenue complexée parce que les autres riaient de moi, parce que les gens du lac Saint-Jean ont souvent un parler plus différent de ce qu'on peut voir au Québec. Fait que j'ai comme effacé toute trace de cet accent dans mon langage, que je trouve maintenant quand même assez triste parce que ça faisait partie de la personne que j'étais.
Moi, je viens de Sorel-Tracy. T'sais, j'ai comme fait tout mon secondaire là-bas. Puis dans ma tête de jeune adolescente, c'était vraiment une belle place. T'sais, c'est sur le bord du fleuve. Fait, côté paysage, ça peut être beau parce qu'il y a les îles de Sorel. Mais c'est plus la perception des autres qui m'a fait changer d'avis. Par exemple, j'allais ailleurs, puis là, les gens me demandaient je venais de où. Puis quand je disais Sorel, les gens ont tout le temps comme la même petite face de comme « Ah, Sorel! » C'est pas... Je pense que c'est à cause de ça que ma perception a un peu changé, parce que je me suis laissée influencer par les autres. En étant ailleurs et en ayant un regard extérieur, quand j'étais jeune, j'avais pas tant voyagé. Donc, pour moi, Sorel, c'était la seule place que je connaissais quasiment.
Kiev a déjà décrit, avec La Mélanchie de Jacques Ferron, comment la littérature traduit cette perte, ce ternissement de notre environnement qui accompagne parfois notre passage vers l'adolescence, presque comme un passage obligé. Mais la perte est parfois beaucoup plus brutale, moins inscrite dans une évolution naturelle, si j'ose dire. Là encore, la littérature offre une manière d'exprimer, si ce n'est de porter, le deuil.
C'était il y a quelques années, je pense que c'était en 2015, et c'est le Centre d'éducation populaire, qui est un organisme ici en Estrie pour l'alphabétisation et l'insertion socio-professionnelle d'adultes, qui a fait un projet donc, de socio-financement dans lequel il avait demandé à des auteurs de l'Estrie d'être jumelé avec un apprenant, avec un membre utilisateur du centre. Et l'auteur devait, à partir de la rencontre avec cette personne-là, écrire, bref, faire une création libre. Et moi, j'avais été jumelée avec une jeune femme de la Côte d'Ivoire qui avait exactement mon âge. Et donc, on avait pris un café. Puis elle me parlait de son enfance, puis de son adolescence qui ressemblait étonnamment à la mienne, là, à place d'aller en vacances dans le Bas-Saint-Laurent, elle allait au Sénégal. On avait beaucoup de références communes. J'étais très étonnée qu'elle adore Céline Dion, par exemple. Mais donc, il y avait tout ce rapport de partage-là. Elle a dû fuir. Il y a des membres de sa famille qui ont été assassinés. Puis là, maintenant, elle était réfugiée au Canada. Je suis sortie de cette rencontre-là bouleversée. Et je me demandais quoi faire avec cette histoire-là, quoi, comment finalement faire écrire un texte qui rendrait compte de son expérience, lui ferait honneur, tout ça. Et c'est un texte très court. Je suis retournée à l'idée de la maison. Et puis c'est comme ça me faisait visiter sa maison. Puis au début, le ton est drôle. Puis là, tranquillement, ça se teinte. Il y a une menace qui commence à planer.
Nous nous arrêtons dans la cuisine pour qu'elle m'enseigne des recettes. Le poisson est frais, pas congelé, comme au Canada. Aïcha lève vers moi un regard compatissant. Elle sort un filet et je le sens à plein nez. On se croirait au bord de l'eau. Elle le fait braiser, le sert avec des bananes plantain frites et de l'attiéké. Attiéké? C'est un genre de couscous. J'écris couscous et Aïcha s'impatiente. Non, il faut écrire attiéké. Elle me l'épelle avant que je puisse goûter. Ses petits frères se joignent à nous. Ils sont adolescents, un peu gauches. Ils préparent une sauce aux arachides avec du riz. Ils ont fait tout le ménage de la maison. Les parents sont fiers d'eux. C'est soir de fête. Aïcha se rappelle cette soirée par cœur et me la décrit si bien que je m'assois à table avec la famille. Je m'installe en face d'elle. Elle sirote un verre de jus et enfonce un à un ses glaçons avec sa paille. Ils remontent à la surface et s'entrechoquent. Le liquide s'agite, la maison tremble. J'entends son père dire « La ville tremble aussi ». J'accompagne Aïcha dire bonne nuit à ses frères. Des jeux sont empilés dans un coin. Des cassettes de jeux vidéo et un ludo, le jeu de table le plus amusant qui soit, selon Aïcha. Elle essaie de m'expliquer les règles, mais se décourage vite. Il faut y jouer pour bien comprendre. Elle paraît de plus en plus fatiguée. Il ne me reste qu'une pièce à visiter pour terminer, la chambre des parents. En passant le cap de la porte, j'ai un mouvement de recul et je détourne les yeux. Aïcha me rappelle que je dois tout noter, tout raconter, et me force à entrer dans la chambre. Après, il ne nous restera qu'à fuir.
Il n'y a pas que la beauté qui émeut quand elle est partagée. Il y a aussi nos failles et toute cette humanité qu'elle laisse s'échapper, l'horreur et toute notre vie qui change. Les changements de regard, d'histoire ou d'environnement semblent d'ailleurs une constante dans l'adolescence de nos enracinements. Dans ma conversation avec Yannick, les changements en question étaient ceux des eaux, notamment du Saint-Laurent.
Le fleuve, il a passé par des très mauvais moments dans les années 60, 70, où il y avait beaucoup de pollution. Depuis ce temps-là, on essaie de lui faire plus attention, mais on pourrait dire qu'on était de santé moyen. Et il y a des nouvelles menaces qui pèsent sur le fleuve, il y a des nouvelles espèces envahissantes qui entrent dans le fleuve, et il y a les changements climatiques qui vont altérer son fonctionnement. Donc, c'est sûr que le fleuve n'est pas dans son état naturel et c'est sûr que dans le futur, il ne sera pas dans l'état qu'il était quand Jacques Cartier est arrivé. Par exemple, les bélugas. Les bélugas dans le fleuve ont beaucoup de difficultés. Et ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de contaminants dans le passé. Il reste des contaminants. Les contaminants s'accumulent dans la chaîne alimentaire et ça affecte la survie des bélugas. Les bélugas, c'est un de nos animaux charismatiques, mais il y en a plein d'autres qu'on voudrait garder, là, même s'ils ne sont pas aussi jolis. On voudrait qu'ils soient là quand même. Donc, si on veut conserver ces animaux-là, il faut que le fleuve soit dans un bon état. Donc, on ne peut pas dire « l'état qu'on a actuellement, c'est correct, même si ce n'est pas naturel. » Si on ne le maintient pas dans un état proche de son état naturel, on va perdre ce que le fleuve peut faire, peut nous donner.
Du fleuve, on a vogué dans la même direction que la carrière de Yannick. Des eaux salées aux eaux douces. Il m'a dressé un bilan de santé des lacs canadiens.
On s'est promené à travers le Canada, on a échantillonné plusieurs centaines de lacs et on a identifié les problèmes les plus importants. Et il y en a 3 ou 4 qui ressortent, mais le premier, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Donc ça, c'est quand il y a des excès de nutriments qui se retrouvent dans les lacs. Les engrais, en fait, qu'on met dans les champs vont s'écouler vers les lacs et ça fait pousser ce qu'il y a sur, dans les champs, mais ça fait pousser aussi ce qu'il y a dans les lacs. Donc ça, c'est un excès de nourriture pour les plantes qui poussent dans les lacs. On altère cet écosystème-là. Donc, le lac ne va pas fonctionner comme il fonctionnait avant. Il n'est plus dans son état naturel. Donc, les espèces qui étaient là précédemment ne peuvent plus nécessairement vivre. Il y a des nouvelles espèces qui apparaissent ou qui deviennent dominantes, et ce sont les cyanobactéries. Et les cyanobactéries, c'est les algues bleues-vertes. Et ces algues-là sont toxiques. Donc, on ne peut pas boire l'eau, les animaux ne peuvent pas boire l'eau, les poissons vont avoir de la difficulté, etc. Donc ça, c'est le premier problème qu'on rencontre. Le deuxième problème, c'est la salinisation des lacs. Quand on met du sel sur les routes l'hiver, même chose, le sel se retrouve dans l'eau et cette eau-là va se retrouver dans les lacs deviennent plus salés. On le voit dans beaucoup, beaucoup de lacs au Canada. On n'est pas encore sûr c'est quoi l'impact. On ne sait pas si c'est un impact majeur ou si c'est mineur. Mais on voit qu'ils sont plus salés qu'ils devraient l'être. Et l'autre chose, c'est tous les contaminants qu'on utilise. Donc, ça peut être des pesticides, ça peut être des pharmaceutiques, des médicaments qu'on utilise, soit pour les animaux, soit pour les humains, ou toutes sortes de produits qu'on ajoute, par exemple, au plastique, qui vont se retrouver dans les eaux. Donc ça, il y a très peu de lacs au Canada qui ne contiennent pas de ces contaminants-là. Dans la plupart des cas, c'est des faibles quantités, mais il y a certains cas où c'est quand même assez important. Par contre, on retrouve des contaminants et on ne sait pas exactement pourquoi encore dans des lacs qui sont naturels. Donc ça se peut que ça vienne par la pluie, ça se peut que ça vienne par les vents. Donc on va les retrouver aussi dans ces régions-là.
Si l'environnement change, la manière dont on l'habite se modifie aussi, forcément. Comment les peuples nomades vivent-ils actuellement cette adolescence symbolique? Qu'est-ce qui change?
Pour des individus qui appartiennent à la diaspora, qui ont fait leur éducation dans des grandes villes, qui, même en Afrique, ou qui sont extrêmement urbanisés, ils peuvent perdre un savoir qui est extrêmement intuitif pour des enfants et des adolescents qui, par la pratique de l'espace, par le fait de partir un peu à l'aventure autour d'eux, vont maîtriser de nombreux repères, des points d'eau, être capable de lire les pistes. Mon guide qui m'avait emmené au nord du Niger m'avait impressionné là-dessus. Il conduisait sa Toyota et puis il y avait une voiture que l'on essayait de suivre et on était censé s'arrêter pour un campement, pour éventuellement manger ensemble, festoyer. Et donc on l'avait perdu de vue. Donc il s'arrête non loin d'un campement et puis il commence à scruter les traces de pneus dans le sable, entre les environs, les lieux d'ombrage possibles. On a fait un jeu d'hypothèses où il en avait établi trois et on a vérifié ces trois endroits. On n'était pas capable de contacter car on n'avait pas de réseau, l'autre groupe, et on les a trouvés. Et là, on avait vraiment un savoir par rapport à la manière de se situer dans l'espace. Mais ça venait avec des niveaux de connaissances fulgurants. Il m'expliquait que s'il y avait un lézard qui avait traversé, la trace n'était pas fraîche. Donc, il vérifiait très attentivement les traces des animaux, les éventuels indices, comme des excréments qui pouvaient indiquer s'ils étaient séchés, que la trace était plus ancienne, si elle était demeurée au sol malgré tout. Donc, il y avait plein d'éléments qu'il était capable de visualiser, qui étaient des niveaux de connaissances qui ne nous viendraient même pas à l'esprit, mais qu'il, lui, avait. Quasiment de manière intuitive, et qu'il avait du mal d'ailleurs à me transcrire, parce que finalement, lui, tout était extrêmement logique pour lui. Et ils en ont conscience, certains, en ville. Il me disait, Adib, tu poses parfois des questions d'un point de vue conceptuel, que, en fait, on n'en a aucune idée, on a perdu cette connaissance. Il faudrait demander aux gens qui sont sur le campement. Les adolescents, on les teste en leur disant, il faut passer la nuit à l'extérieur du campement. Il faut que tu sois capable d'apprivoiser cet extérieur-là. Donc ça fait partie intégralement de leur identité et ils le voient de manière extrêmement romantique avec le temps. Il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses nomades ou d'origine nomade qui se produisent en Occident et qui réfèrent à cet essouffle. Et donc oui, il y a une féminisation de l'espace public, on va dire, même au sein de ces communautés nomades. Le pouvoir est matrilinéaire, donc ça signifie que le pouvoir est transmis par la mère. C'est une stratégie qui a été mise en place dans ces sociétés pour permettre d'assurer que le groupe qui a des filles ne disparaît pas et qu'il y ait une pérennité du pouvoir et de sécuriser en fait toute la gente féminine dans la société pour leur donner un pouvoir symbolique plus fort. Donc à partir de là, les neveux du chef traditionnel, c'est-à-dire le fils de la sœur, va être positionné dans l'héritage de manière dominante. Il va peut-être devenir le chef traditionnel, le chef de la tribu, le chef du groupement. Donc tout passe par la figure un peu maternelle qui a autorité au sein de la tente, c'est-à-dire que pour les décisions politiques à l'intérieur de la communauté, la voix porte. À l'extérieur, dans la logique traditionnelle, elle ne va pas s'afficher dans l'espace public. Cette division Ehan et Souf. Par contre, c'est en train, bien évidemment, de changer. On a des élus politiques femmes qui existent au Mali et au Niger. Donc là, la réalité a complètement changé. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'éducation, c'est une évidence. La scolarisation en zone urbaine, principalement. Donc, on parle de nomades qui se sont sédentarisés surtout. Ils vont vouloir acquérir des postes et des responsabilités similaires aux hommes. Donc, il n'y a plus de différence dans ces écosystèmes. Par contre, il y a de la résistance au sein des populations nomades. Il y a une envie que les filles aillent à l'école, même de la part des mères, qui veulent qu'elles aient les outils pour aller, pour être indépendantes, autonomes. Mais elles ont peur qu'elles perdent leur culture, qu'elles perdent leurs identités. Pourquoi ? Parce que dans ces sociétés-là, on dit que la garante de la culture, de l'éducation, c'est la fille, bien évidemment. Donc, il y a cette crainte-là. Donc, il y a comme une tension. Il y a des choses qui se passent, il y a des changements. Pour, par exemple, disons, les catégories statutaires dominantes dans l'ordre traditionnel, les aristocrates, ceux qui sont tout en haut de la pyramide, il peut y avoir des résistances à perdre la culture et donc à envoyer leurs filles au loin. Mais par contre, pour des classes statutaires inférieures, il y a un avantage parce que ça leur permet une ascension sociale. Donc on voit qu'en fonction des situations, on peut voir des résistances ou une adhésion à une modernité.
Le poids qu'ont les décisions individuelles sur la destinée collective me fascine. Alors que, comme être humain, vous êtes tiraillé entre deux options et leurs mille nuances, la culture fluctue et se redéfinit constamment, selon les choix que vous faites. Et ces choix dépendent de beaucoup de facteurs, notamment de votre vision du monde.
Ça a été super, super difficile, mon premier déménagement, surtout que c'était loin dans ma tête. Ben, Lac-Saint-Jean, Abitibi. J'avais 14 ans quand c'est arrivé. Puis c'était pour le travail de mes parents. Ça a vraiment été la fin de mon monde. On dirait qu'à cet âge-là, tout ce que tu as, c'est tes amis à l'école. Puis tu vois rien d'autre que tes amis à l'école. Fait que ça a vraiment été un gros bousculement dans ma vie. J'en voulais à mes parents. Je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Puis après ça, on est reparti pour Cowansville. Puis ça a été vraiment différent dans ma tête. C'était plus la fin d'un monde. J'avais comme vieilli. Ça a été vraiment une réalisation que mes parents n'avaient pas fait ça pour me blesser, qu'ils avaient fait ça pour nous. Puis ça a vraiment été une super belle expérience. Ces déménagements-là, finalement, sont vraiment pas une blessure, mais vraiment des belles expériences de vie. Là.
Ce qui résonne pour moi là-dedans, c'est un passage, un autre changement. Quitter l'adolescence pour adopter un regard adulte. Loin d'être une question d'âge, ce regard exige d'abord de développer notre compréhension du monde.
La première étape pour résoudre un problème, c'est de savoir que le problème est présent. C'est à ça que ça sert les scientifiques. C'est à trouver le problème et ensuite, il y a certains problèmes où la solution est plus compliquée. Donc, c'est d'offrir des possibilités de solution. C'est d'offrir des choix, de dire, OK, si on fait ça, c'est ce qui va arriver. Si on fait ça, c'est ce qui va arriver. Donc ça, c'est un peu le rôle d'un scientifique en environnement. C'est de dire, OK, bien, vous avez des choix pour résoudre ce problème-là. Le scientifique, c'est pas lui qui va aller dans le champ et reboiser. Donc là, c'est à un autre niveau. C'est quelqu'un d'autre qui doit reprendre la balle au bon et aller mettre les solutions en place. Ça prend pas un scientifique pour savoir c'est quoi les solutions à ces problèmes-là. L'eutrophisation, il faut qu'il y ait moins d'engrais qui se retrouvent dans l'eau. La salinisation, il faut qu'il y ait moins de sel qui se retrouve dans l'eau. Et les contaminants, il faut qu'il y ait moins de contaminants qui se retrouvent dans l'eau. C'est la responsabilité, en fait, des citoyens, mais aussi des gouvernements, surtout des gouvernements, de mettre des lois en place pour réduire leur utilisation, pour gérer leur utilisation, pour pas qu'il y ait des excès. Mais évidemment, quand les gouvernements font leurs décisions, ils vont pas juste regarder l'impact environnemental, ils vont regarder l'impact économique, l'impact social. Par exemple, on met du sel sur les routes pour éviter les accidents. Donc, est-ce qu'on va saliniser un lac pour sauver une vie? C'est le genre de décision que les gouvernements doivent prendre.
OK. Pour le moment, je me sens clairement pas adulte au point d'avoir envie de prendre ce genre de décision. Pour devenir adulte, nous devons aussi nous explorer nous-mêmes. Ce qui nous forge, ce que nous sommes, ce qui nous manque et ce qui nous nourrit.
Quand on dit qu'on ne réalise pas ce qu'on perd avant de perdre, quand j'ai déménagé à Montréal, la raison pour laquelle j'ai déménagé, c'est que je croyais pas appartenir au monde rural. Je trouvais donc la mentalité dépassée, vraiment. J'étais constamment en conflit idéologique, je pourrais dire, avec les gens qui m'entouraient. Puis, j'ai été choquée. Ça a été vraiment une épreuve pour moi, psychologiquement parlant, de me retrouver vraiment dans un milieu urbain, rempli de gens. Puis la campagne, la nature, c'est rapidement venu me manquer. J'allais dans les parcs, parc Maisonneuve, j'étais comme, mais il n'y a pas d'arbres ici, c'est juste, c'est vide. Vraiment, j'ai rapidement réalisé en fait que j'appartenais de là où je venais. Je me connaissais pas, j'ai appris à me connaître ainsi.
Moi, je me poussais réellement pour fuir, mais on se rend compte des fois que peu importe où on est, on reste la même personne. Fait que l'inconfort qu'on vient à une certaine place, c'est pas parce qu'on se déplace qu'on la perd. Fait que, tu sais, l'appartenance, c'est vraiment par rapport à soi-même. Puis peu importe où on est, tout ce qu'on a comme bagage, on va le traîner.
Je m'en allais vivre mon rêve de petite fille de partir à Montréal, mais c'était la COVID. Donc, tout le monde a des masques. Toute la vie de Montréal qui coule, les spectacles, les festivals, c'était tout pas là. Donc, il n'y avait rien à faire. Puis Montréal, quand t'as rien à faire, c'est longtemps, c'est froid, il n'y a personne qui se parle. J'ai détesté vraiment. Puis là, j'ai décidé à Sherbrooke, puis honnêtement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je suis très, très bien à Sherbrooke. Je suis bien dans les montagnes. Juste le vibe est différent. Tout le monde est comme ami un peu.
Moi, je viens de Granby. J'ai tout le temps vécu là, puis toute ma famille est là, puis tout mon monde. J'ai jamais déménagé de Granby à part cette année pour aller à l'université. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, mettons, en habitant à Sherbrooke, tu peux quand même avoir un lien d'appartenance avec d'autres choses que ta ville. Ça peut être qu'est-ce qu'il y a dans ta ville. Comme moi, c'est juste pour ma famille. mes plans futurs sont déjà tout faits autour de Granby parce que je me vois pas être capable de quitter cette ville-là, même si je trouve qu'il n'y a rien de spécial avec ma ville, parce que le sentiment d'appartenance, c'est qu'est-ce qu'elle représente, mais c'est qu'est-ce que moi j'ai créé autour d'elle.
Ce bout de conversation-là, avec le groupe de Géo 252, me fait réaliser quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La maturité de l'âge adulte, elle en appelle peut-être à notre capacité et à notre volonté d'aimer.
Je me préoccupe de ce qui va arriver aux autres personnes. Je me dis, c'est comme ça qu'on devrait régler des problèmes. C'est en pensant à notre communauté, c'est en disant comment, comme humains, ça va nous aider dans le futur, comment les prochaines générations qui arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un milieu de vie qui est semblable à celui qu'on a. Quand je fais de la science, j'essaie de faire, de comprendre comment ça fonctionne et de trouver les problèmes, trouver les causes, trouver des solutions. Quand je comprends comment les choses fonctionnent, je suis encore plus intéressé par cette chose-là. Quand j'ai découvert comment je pouvais programmer un ordinateur, j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai compris comment on parlait avec un ordinateur. Même chose quand j'ai compris comment la photosynthèse fonctionnait. Avant, on m'en avait parlé, mais comment ça fonctionne au niveau moléculaire, je trouvais ça vraiment fascinant. Maintenant, quand je regarde une plante, je me dis, wow, tout ça, ça se passe dans cette plante-là.
Je viens de Verchères, sur la rive sud de Montréal. Et puis, je baigne dans le monde agricole depuis toujours. Donc, pour moi, d'aménager à Sherbrooke pour les études, ça a été un cap, si on peut dire ça, parce que, justement, c'est un monde que je connaissais pas du tout. Mais c'est aussi de rencontrer des gens à qui je peux transmettre d'une certaine façon ce que moi, je vivais dans le monde agricole. Puis, ces gens-là vont m'apporter aussi des histoires de la ville que moi, j'avais pas dans mon bagage. Fait que le fait de déménager à Sherbrooke, ça m'a fait peur au départ, mais au bout de la ligne, ça m'a juste apporté une interconnexion avec les gens pour mettre les deux mondes ensemble.
Et si la maturité, la vraie maturité, elle n'était pas de choisir entre trancher ses racines ou les enfouir encore plus profondément? Si elle consistait à marcher sur un fil, mince mais solide, fait de communication, de partage et de compréhension mutuelle.
C'est aussi parce qu'il y a eu cet espace qui est devenu de plus en plus en danger que ces communautés ont essayé de plus en plus de sensibiliser l'extérieur au fait que leur espace était sujet à l'exploitation d'uranium ou la disparition d'un espace où l'on peut éventuellement faire de l'élevage en leur faisant perdre leur mode de vie, on leur fait perdre des éléments culturels, des éléments identitaires et la déperdition commence. À savoir, les fondations dans leur structuration sont détruites, en fait. Et dans le cas des Touaregs, ils ont opté pour une logique de résistance affirmée contre deux États de la région qui étaient en train d'essayer de les intégrer sur un des schémas très forcés. J'ai un ami, Atsuyasuf Risa, qui est un chanteur extraordinaire. Bien, il a ses albums, il est connu à l'international, il fait des concerts, mais il avait une cousine qui venait de Libye et elle était toute contente de le filmer, de partager ça avec tous les campements qui étaient en Libye. L'imaginaire, ce qui est chanté, va circuler. Donc en fait, oui, c'est entré dans la culture pop, la world music, les chansons Touareg, mais en fait, localement aussi, il y a eu une appréhension du monde qui est aussi entrée dans ces milieux-là. Et donc, l'idée d'appréhender cet espace-là comme un espace de danger, oui, à l'extérieur, mais aussi comme un espace romantique, comme un idéal de façon d'être et autres, est entrée au sein de ces communautés. Et il y a maintenant une sensibilité à l'international là-dessus, mais ils ont bénéficié de grands échos, on va dire, grâce à des chanteurs comme Tina Riwen, qui ont été extrêmement popularisés et qui font partie maintenant de la world music, et qui ont aidé à faire comprendre que ces communautés essayaient de survivre aussi sur le plan identitaire, pas simplement pour des impératifs exclusivement économiques, mais sur le plan identitaire.
Survivre sur le plan identitaire, c'est préserver ce qui peut l'être, ce qui gagne à l'être, dans un monde en plein changement. Ça se joue au plan collectif, oui, mais pas que.
Je pense qu'en nous, il y a toujours un côté enfant, un côté naïf, un côté où on explore, on est curieux. Et quand on grandit, on développe d'autres côtés. On comprend beaucoup plus ce qui se passe autour de nous. Donc, on peut perdre cette curiosité-là. Et comme chercheur, ce qu'on essaie de faire, c'est de la garder, cette curiosité-là. C'est de toujours avoir des nouvelles questions à se poser. Dans la complexité, il y a une beauté C'est comme un joueur d'échecs qui va vous dire « Je viens de jouer la plus belle partie de ma vie. » Il y avait une beauté dans la mathématique de la chose. Donc, je pense que c'est un peu la même chose. Quand on fait des recherches, quand on comprend quelque chose, il y a une beauté dans cette nouvelle connaissance-là. Je pense que ça nous raccroche un peu à la beauté qu'on éprouvait quand on était jeune, quand on allait jouer dans le Trudeau, puis qu'on s'amusait, on s'émerveillait. C'est le même émerveillement, je pense.
Bercé par le tempérament de Yannick, aussi doux que les eaux qu'il étudie, je réalise qu'enfance, adolescence et âge adulte ne nous quittent jamais complètement. Si on leur laisse la place, ils cohabitent et s'équilibrent. Nous serons toujours enracinés dans notre enfance, les deux pieds dans le fleuve, dans la forêt ou dans le sable, nourris par les moments passés avec ces gens qui auront compté. Notre part adolescente sera toujours partagée entre le souvenir des premières fois, les constats brutaux et les possibles encore à découvrir, comme un arbre tendu entre le sol et le ciel. Avec du temps et de la douceur, notre côté mature s'émerveillera devant la beauté. Nous chercherons alors à préserver ce qui peut l'être, sans fuir ni l'inconnu, ni la différence, ni les pertes, ni les sacrifices. Nous savourerons chaque accalmie et affronterons chaque avarie, motivés par les mots et la création. En équilibre, sur ce mince fil qui nous lie. Vous avez aimé ce premier épisode? Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous aux Histoires qu'on se raconte sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. J'explorerai les histoires qu'on se raconte sur la réussite. Merci aux spécialistes qui ont participé à cet épisode. Adib Ben-Sherif, de l'École de politique appliquée, Yannick Huot, du département de géomatique appliquée, Kiev Renaud, du département des arts, langues et littérature. Merci aussi aux étudiantes et étudiants du cours Espace, culture et société et à leur chargé de cours, Vincent Grimard. Merci au Centre d'éducation populaire qui a donné son aimable autorisation pour la lecture d'un extrait du texte « Le tour de la propriété » tiré de son recueil « Porte-voix ». Pour plus d'informations sur l'organisme, visitez le www.cepestri.qc.ca. Le texte d'introduction est lu par David Bergeron, technicien en informatique à la Faculté des lettres et sciences humaines. L'indicatif musical, Songes et réflexions, est signé par Joël Lupien-Faneuf, compositeur inscrit en développement et réalisation d'une production artistique à l'École de musique. Je m'appelle Amy et vous avez écouté Les histoires qu'on se raconte.